Alain Zetouni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion multi-actifs chez Russell Investment. On va parler avec vous stratégie sur les marchés et puis perspective. Comment, je dirais, si on fait un petit bilan, un bilan rapide de cette année 2012, on peut dire qu'elle n'a pas été facile pour les investisseurs cette année 2012?
C'est une année qui n'a pas été facile, mais à la fin, si on fait les comptes, c'est une année qui a été positive et très positive pour les investisseurs qui ont su prendre des risques. Effectivement, on a l'ensemble des marchés actions, le CAC 40 en tête, qui est en progression dans des niveaux au-delà de 10% et qui touchent les 15%. Et c'est le cas sur l'ensemble des marchés actions de la planète, que ce soit les marchés développés, que ce soit les marchés émergents, que ce soit aux États-Unis, en Europe. On a eu tous les marchés actions qui, de manière synchronisée, ont progressé. Alors effectivement, vous le disiez, ça n'a pas été une année facile parce qu'on a eu de la volatilité. On a eu une peur en mi-année sur l'état de la zone euro, l'implosion, l'état du système bancaire espagnol. Mais à la fin, les banquiers centraux sont intervenus, ont permis de donner de la sérénité aux marchés financiers et aux investisseurs, ont donné de la liquidité, et ce qui permet d'avoir une année boursière sur les marchés actions très positive, une des meilleures qu'on ait eues depuis de nombreuses années.
Alors c'est vrai que ce n'est pas le moindre des paradoxes, hein. Souvent on l'entend, la remarque en disant bah finalement la bourse monte, la bourse est au plus haut. Alors on compare, faut comparer ce qui est comparable, hein. Si on était sur une échelle de 10 ans, on dirait elle n'est pas au plus haut, mais elle était au plus haut alors que l'économie, notre économie, l'économie européenne, l'économie mondiale n'est pas dans une forme olympique.
Tout à fait. La bourse et les marchés financiers ont tendance à anticiper et à avoir une vision prospective de l'état de l'économie ou l'état des entreprises. Et effectivement, finalement, si on se rend compte et on fait un petit flashback sur 2011, en 2011, c'est là où la bourse et les bourses européennes ont beaucoup souffert. Et à cette époque, on n'avait pas vraiment encore de tensions économiques. La croissance était molle, était atone, mais on n'était pas en récession. On n'était pas dans le même état qu'aujourd'hui. Donc effectivement, en 2011, les marchés boursiers avaient anticipé et avaient déjà valorisé ce ralentissement dans la zone euro, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il a lieu, mais les bourses l'ont déjà anticipé et sont passées à autre chose.
Justement, quand on regarde aujourd'hui les zones d'investissement, États-Unis, zone euro, pays émergents, notamment la Chine, est-ce qu'il y a une vraie différence à faire entre l'état de l'économie américaine, avec un certain nombre de questions, on en reparlera, et la zone euro? Est-ce qu'il y a un avantage aux États-Unis?
Alors, effectivement, l'économie américaine se porte mieux que les économies européennes, mais il faut savoir que l'économie américaine est habituée à un rythme de croissance de 4-5% qui sont des rythmes de croissance entre guillemets qui permettent une amélioration du chômage, une amélioration du niveau de vie et une vraie croissance. Aujourd'hui aux États-Unis, on espère sur 2013, une croissance entre 2,2 et 2,5% qui sont quand même des niveaux de croissance anémique si on ajoute tous les mouvements de soutien à la croissance qui sont en place, notamment les actions de la Réserve fédérale. Donc une économie qui va mieux que nous, qui est en croissance, mais qui est quand même en croissance atone. En Europe, sur 2013, ça va être encore a priori une récession de l'ordre de 0,05 au niveau global, avec des disparités entre l'Europe du Nord qui va réussir, qui devrait réussir à s'en sortir, avoir une croissance entre 0,05-1 suivant les pays, et l'Europe du Sud qui est encore embourbée dans la crise du désendettement et le ralentissement. Les marchés émergents, c'est peut-être un petit peu différent, parce que finalement, on dit que c'est des marchés de croissance, effectivement, mais si on regarde sur un an, sur 3 ans et sur 5 ans maintenant, les marchés émergents ont sous-performé les marchés développés. Donc c'est peut-être là qu'il y aura peut-être plus de valeur dans les années à venir, notamment dès 2013.
C'est vrai que ce n'est pas le moindre des paradoxes, hein. On a beaucoup parlé des pays émergents au cours des dernières années, mais quand on regarde la performance boursière, à moins d'être effectivement sortie peut-être des indices, elle n'est pas forcément au rendez-vous.
La performance effectivement a été un petit peu décevante, notamment du fait de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est 20% des indices de marché émergent. Et effectivement, la Chine est le marché émergent qui performe le moins depuis 3 ans. Ça a été une belle année en 2009, une belle année de reprise. Mais en réalité, si on regarde de plus près, il n'y a eu que 7 mois de reprise en 2009 en Chine. Et ensuite, là, le marché chinois est quasi à son plus bas depuis une quinzaine d'années. Alors, Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, je dirais, inverser la tendance sur le marché chinois? C'est premièrement le fait qu'il y ait un nouveau pouvoir en place. Donc, c'est vrai que les autorités chinoises et le pouvoir a changé. Le nouveau leadership chinois devrait arriver à partir de mars 2013 au pouvoir avec un boulevard sur 5 ans et éventuellement la mise en place d'une politique de stimulation de la demande interne qui est le point faible de la Chine. Les Chinois ne consomment pas. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucun système d'amortisseur social et donc ils épargnent pour pouvoir avoir un petit peu d'argent en cas de maladie, en cas de retraite. Le nouveau pouvoir a d'ores et déjà annoncé qu'il veut mettre en place une couverture sociale pour tous les Chinois à horizon 2020. Donc un vrai catalyseur éventuellement pour le marché action chinois.
Alors, du côté des marchés obligataires, on a pu lire au cours des dernières semaines ou des derniers mois, certains investisseurs dire attention, krach obligataire en vue. Quand on regarde ce qu'annonce la Réserve fédérale américaine, on est toujours sur des taux bas jusqu'en 2015, très bas, on peut le dire. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces marchés obligataires en 2013?
Alors, clairement, aujourd'hui, acheter de la dette 10 ans française à moins de 2% ou acheter de la dette 10 ans allemande à 1,30, 1,40, je ne suis pas sûr que ce soit la plus belle affaire qu'on fasse. Sur les marchés obligataires corporate, effectivement, là aussi, les écarts de primes de risque se sont beaucoup resserrés par rapport à la dette d'État. Mais aujourd'hui, même si ce resserrement est derrière nous, on a quand même la problématique du portage obligataire et du rendement. Et aujourd'hui, dans des marchés, dans des économies où les taux réels sont négatifs ou nuls, avoir un rendement de 3-4% sur certaines obligations corporates peut être intéressant. Donc, en termes de diversification et d'apport du revenu de l'obligation, il y a encore sur les obligations d'entreprise un intérêt. Maintenant, avoir des hausses de 15% comme on l'a connu ou 10-12% sur certains marchés obligataires corporate en 2012, là aussi je pense que c'est derrière nous.
Sur les marchés actions, certains disent finalement les actions européennes sont pas chères ou peu chères, historiquement, selon les modes de calcul. Est-ce que c'est suffisant pour y investir?
Non, parce que on l'a bien vu, outre l'aspect fondamental des marchés actions et de chaque valeur qui est derrière les indices, vous avez des paramètres exogènes comme ce qu'on a pu voir en mai, juin dernier sur l'Espagne. Les valorisations étaient très faibles. Si on regarde les valorisations du marché espagnol, du marché italien et même des marchés grecs, on se rend compte effectivement que sur des niveaux historiques, on est très très bas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui aussi comparer des niveaux historiques alors que ces économies sont quand même à des moments charnières, à des moments où il y a une austérité qui est très forte? Je pense que si on fait une simple comparaison sur des moyennes historiques, on peut faire des erreurs. Alors, il ne faut pas oublier que derrière les indices, il y a des valeurs et qu'il y a des entreprises, il y a des business models. Et c'est ça qui est plus intéressant peut-être, c'est de voir quelles vont être au sein de chaque marché les valeurs qui ont un vrai business model, qui sont faiblement endettées, qui sont de qualité. Et donc là aussi, le stock picking, le choix de valeur va être décisif.
Voilà, c'est l'opinion que vous avez en tout cas sur 2013, ce début d'année 2013, qui reste encore un petit peu confus. On n'a pas parlé du fiscal cliff aux États-Unis, mais il y a encore pas mal d'inconnus pour les investisseurs.
Oui, il y a le fiscal cliff. Bon, ça devrait générer peut-être un petit peu de volatilité en fin d'année ou même en début d'année 2013, puisqu'on a aussi l'échéance du plafond de la dette américaine d'ici fin février. Donc, on devrait effectivement avoir un petit peu de volatilité. Je pense que maintenant aussi, les investisseurs s'habituent. La volatilité va avec la prise de risque. Il faut vivre avec sur les marchés actions. Donc là aussi, il ne faut pas s'attendre à des progressions linéaires ou à des progressions stratosphériques, mais des opportunités. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le marché immobilier qui est en crise depuis 2007 et qui a connu des baisses considérables, aujourd'hui donne des signes consistants, répétitifs d'amélioration avec une augmentation du nombre de transactions, une augmentation de construction, une augmentation des prix des maisons, même dans les zones qui étaient les plus sinistrées. Donc là aussi, un effet d'aubaine pour les investisseurs et les ménages américains.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Alain Zetouni. Je rappelle que vous êtes donc le directeur des gestions multi-actifs donc chez Russell Investment. Merci.
Merci, bonne journée.